Je ne sais pas si vous avez été attentif à ce que Paul a dit tout à l'heure lors du moment de communion fraternelle. Il a évoqué un aspect de notre travail en tant qu'enfant de Dieu, ambassadeur pour Christ. Et un deuxième aspect, dans la deuxième partie de son intervention, le fait que nous avons à nous consacrer à notre Seigneur pour vivre comme il l'attend dans la vie que nous menons ici-bas. C'est un autre aspect de notre fonction d'enfant de Dieu que j'aimerais que nous abordions ce matin à partir d'un texte que nous trouvons dans l'épître de Pierre et que nous allons lire tout à l'heure. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On aurait pu faire trois messages de ce seul et unique verset. Je m'intéresserai uniquement à la première partie en tant que sacerdoce royal que Dieu a fait de chacun de nous. Dans l'Ancien Testament, cette fonction sacerdotale était le propre des sacrificateurs qui avaient été choisis par Dieu pour un service bien défini, l'honorer en lui apportant des holocaustes, des parfums, des offrandes, tous ces sacrifices étant agréables à l'Éternel. Sacerdoce dans l'Ancien Testament qui était bien évidemment une préfiguration du ministère à venir de Jésus-Christ, le parfait souverain sacrificateur sur lequel nous verrons tout à l'heure un certain nombre d'aspects. Une image donc qui a duré pendant tout le temps de l'Ancienne Alliance jusqu'au moment où Jésus, accomplissant à la perfection son sacrifice à la croix du calvaire, nous a offert et ouvert en même temps une ère nouvelle, celle à laquelle nous sommes appelés, nous, en tant que sacrificateurs, et à, au milieu du monde où nous sommes, être dignes de la fonction à laquelle il nous a donné lieu d'être. Christ, souverain sacrificateur, qui a offert sa vie une fois pour toutes pour les péchés du monde, et qui nous permet, par sa mort, par sa résurrection, de nous approcher de Dieu aujourd'hui sans qu'il y ait aucun obstacle entre Dieu et nous. Jésus nous a ouvert la voie, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, mais nous pouvons les uns les autres, qui que nous soyons, nous approcher librement de Dieu par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile. Rappelons-nous qu'au moment de sa mort, le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, montrant ainsi que l'accès auprès de Dieu nous était librement ouvert. Le Nouveau Testament, lui, nous dit que nous avons aussi un rôle en tant que sacrificateurs de Dieu et que nous devons offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Alors je vous invite à une lecture d'un texte bien connu dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2. Nous lirons les versets 4 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Des paroles qui ne sont pas banales et qui ne sont pas aussi faciles que cela à comprendre. Nous devons donc en saisir à la fois le sens et la portée. Parce que, comme le disait Paul tout à l'heure, nous avons une fonction ici-bas. Et ce texte nous engage dans un ministère, dans un rôle que le Seigneur attend pour nous, ici-bas, jusqu'à son retour. Alors, je vous invite ce matin à voir un petit peu plus en détail ce qu'est le sacerdoce et la fonction à laquelle nous sommes appelés. Et pour cela, je ferai, dans un premier temps, un rappel sur ce qu'était la fonction sacerdotale dans l'Ancien Testament. Et puis, nous nous arrêterons sur ce qui me paraît essentiel, à savoir ce que Jésus-Christ lui-même, en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, en tant que souverain sacrificateur parfait, nous a montré, pour nous intéresser dans un troisième temps à notre sacerdoce, à nous, à notre fonction et aux implications qui en découlent. Alors, dans un premier temps donc, ce qu'était le sacerdoce au temps de l'Ancien Testament. C'est quelque chose, cette fonction, que nous retrouvons pas seulement dans le cadre du peuple d'Israël, mais également dans les religions antiques, dans les peuples civilisés. C'était une fonction qui était assurée dans certains pays, dans certaines contrées, comme la Mésopotamie, par le roi, ou par le pharaon en Égypte, avec les prêtres qui étaient souvent associés à cette fonction, dans un clergé hiérarchisé, une sorte de caste. Mais le sacerdoce en lui-même, si l'on devait le définir, je dirais que c'est la dignité et les fonctions du prêtre ou de celui qui est chargé, dans les différentes religions, d'être un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Alors, pour nous intéresser maintenant uniquement au peuple d'Israël, voyons un peu ceux qui, dans l'Ancien Testament et dans le peuple d'Israël, ont exercé le sacerdoce. Alors, on peut prendre d'une part ce qui se passait avant la promulgation de la loi. Et si vous vous référez au début du livre de la Genèse, eh bien, vous verrez que les patriarches ont exercé cette fonction sacerdotale. Les chefs de famille, d'une manière générale, alors qu'il n'y avait ni temple, ni prêtre, ont exercé cette fonction. C'est-à-dire qu'ils étaient à même de s'approcher de Dieu pour offrir des sacrifices agréables à l'Éternel. Ça a été le cas pour Noé, qui a bâti un autel à l'Éternel, Genèse 8. Ça a été ensuite le cas d'Abraham, d'Isaac, Jacob, à maintes reprises tout au long de leur vie. Relisez le livre de la Genèse, vous les verrez construire des autels, offrir à l'Éternel des sacrifices qui lui étaient agréables. Ainsi, au sein de chaque famille, chacun d'eux exerçait cette fonction. Un seul cas où nous voyons dans l'Ancien Testament et toujours dans le livre de la Genèse, cette fonction sacerdotale assurée par un roi ou un prêtre, est l'exemple de Melchisédek, Genèse 14, qui nous est présenté comme étant à la fois roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Après la promulgation de la loi, et moyennant une obéissance parfaite, ce devaient être tous les enfants du peuple d'Israël qui devaient assumer cette fonction. C'est ce que Dieu attendait de chacun des enfants de son peuple. Malheureusement, ils n'ont pas appliqué ce que Dieu attendait d'eux. Je relis Exode 19:6. C'est Dieu qui parle à travers la bouche de Moïse. « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Le but de Dieu était donc à cette époque que chaque enfant d'Israël soit un témoignage par la fonction qu'il exerçait auprès de tous ceux qui se trouvaient dans son cadre de vie. Mais Israël a violé la loi et Dieu a confié le sacerdoce à une famille, la famille d'Aaron, et le service du sanctuaire à la famille de Lévi, à la tribu de Lévi. Et dès lors, toutes les fonctions ont été assumées par cette descendance de Lévi, élue, consacrée par Dieu lui-même pour le service dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Des prêtres, par excellence, attachés à l'exercice du culte, quels que soient les lieux. Rappelons-nous qu'avant la construction du temple, sous Salomon, il y avait de nombreux sanctuaires en Israël. Et sur chacun d'eux, sur ces autels bâtis, on pouvait offrir des sacrifices à l'Éternel. Toutefois, à côté du sacerdoce lévitique, nous voyons encore dans l'Ancien Testament, comme du temps des patriarches, quelques personnes offrir dans le cadre de leur famille des sacrifices à l'Éternel. C'est le cas, par exemple, dans le livre des juges de Manoac, juge 13, versets 19 à 23, où il nous est dit que cet homme prit un chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Voilà donc ce qui se passait jusqu'à l'instauration, parce que le peuple d'Israël l'a demandé, d'un roi. Et sous la monarchie instituée par Samuel, eh bien cette fonction, tout en étant encore assurée par les Lévites, a été, dans quelques situations, assurée par le roi. Pas toujours de manière très très orthodoxe, pourrait-on dire, puisque le premier d'entre eux, Saül, a offert un holocauste alors qu'il n'était pas du tout invité à le faire, au contraire, et ça lui a coûté non seulement sa fonction de roi, mais également sa vie. Voilà pour les gens qui ont exercé ce sacerdoce. Mais quelles étaient les fonctions? Qu'est-ce que Dieu attendait de chacun d'eux? Eh bien, si l'on relit un petit peu les textes, on se rend compte que la fonction sacerdotale incluait deux ministères, ou si vous préférez, deux formes de médiation. L'une, qui était bien entendu le service du culte, et l'autre, qui était le service de la parole. Alors, les prêtres, les descendants de Lévi, ont exercé un petit peu les deux formes, dans la mesure où ils rappelaient l'enseignement de la loi, ce que Dieu attendait. Il ne faisait pas qu'offrir des sacrifices. Et pour le souverain sacrificateur, une fois par an, l'entrée dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice d'un agneau pur, sans défaut, qui rachetait le peuple, mais également le souverain sacrificateur de leur péché, lorsque le jour de l'expiation, il entrait dans le lieu très saint, Lévitique 16. L'autre ministère, c'est celui de la parole, qui a donc été assuré par les prêtres, mais également par les prophètes. La parole adaptée aux circonstances de la vie. Parole d'exhortation, parole d'encouragement, parole au cours desquelles, à travers son prophète, Dieu dévoilait ses intentions ou faisait connaître ses voies. À maintes reprises, des prophètes ont consulté l'Éternel pour savoir ce qu'il fallait faire, s'il fallait monter pour faire la guerre, s'il fallait au contraire attendre une délivrance précise de Dieu. Sacerdoce, dans l'Ancien Testament, on peut dire que dans l'ensemble, il a été fidèle à la mission qui lui avait été confiée. Rappeler au peuple l'alliance conclue sur le mont Sinaï et rappeler également l'engagement de chacun des enfants d'Israël à obéir, à écouter, à appliquer dans sa vie de tous les jours les ordonnances que Dieu lui avait prescrites. Pourtant, un texte de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que ce sacerdoce a été totalement dépassé. Si donc, je lis Hébreux 7, 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que paraisse un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Les valeurs de l'Ancien Testament ne prennent tout leur sens qu'en un homme, le Fils de Dieu, Jésus fait homme, qui les a accomplis à la perfection, je dirais même qui a dépassé toutes les fonctions exercées par le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs d'une manière générale dans l'ancienne alliance. Pourquoi ? On va y revenir, tout simplement parce qu'il est le souverain sacrificateur parfait, mais qu'il n'a pas eu besoin d'offrir un grand nombre de sacrifices, d'animaux purs, certes, mais qu'il fallait chaque année, plusieurs fois même dans l'année, apporter devant l'autel de Dieu. Il s'est offert lui-même, une fois pour toutes, lui, le saint, le juste, en victime, à notre place, à ma place, à la place de tous ceux qui reconnaissent en lui l'envoyé de Dieu, le souverain sacrificateur parfait, le sauveur. Alors, quel était le sacerdoce de Jésus-Christ ? En quoi peut-il nous paraître extraordinaire et totalement différent de celui exercé par les prêtres durant l'Ancienne Alliance ? C'est l'Épître aux Hébreux, et si vous voulez vraiment en apprendre davantage, je vous invite à relire cet Épître qui nous en donne un aperçu beaucoup plus étendu. Voyons tout d'abord l'homme. Nous avons vu tout à l'heure la fonction et les hommes appelés dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, voyons Jésus-Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous lisez les évangiles, vous ne verrez apparaître nulle part dans la bouche même de Jésus le fait qu'il se considère comme prêtre ou comme souverain sacrificateur. Il ne s'est jamais manifesté comme tel. Il n'a jamais voulu, tout au long des 3 années et demie de son ministère, paraître comme quelqu'un d'autre qu'un serviteur humble et fidèle à son Père. Comportement compréhensible dans la mesure où, sous l'Ancienne Alliance, rappelez-vous, la fonction de prêtre était assurée par la tribu de Lévi. Or, selon Hébreux 7, versets 13 à 15, Jésus n'appartenait pas à cette tribu. Il n'était pas descendant de la tribu de Lévi. Alors j'aimerais insister sur quelques éléments distinctifs séparant Jésus de toutes les autorités qui ont pu exister du temps de l'Ancienne Alliance, que ce soit les prêtres, les prophètes. Il nous est dit déjà que Jésus est supérieur aux anges, car il est le Fils de Dieu par origine et par nature, créateur de toutes choses, auquel, psaume 110, verset 1, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Deuxième aspect qui distingue très clairement la fonction de Jésus de celle des prêtres et des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Il n'a pas été pris du milieu des hommes, mais il tient cette fonction de celui qui lui a dit, psaume 2, verset 1, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Attention de ne pas prendre ce verset d'une mauvaise manière. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé Jésus-Christ. Certes, il a permis qu'il vienne ici-bas en tant qu'homme, mais Jésus-Christ était de toujours à côté de Dieu en tant que personne de la Trinité. Un autre verset, tiré toujours de l'Épître aux Hébreux. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, un sacerdoce pour toujours, celui qu'il nous a transmis en tant que souverain sacrificateur, parce qu'il est mort une fois pour toutes pour le péché. Et c'est la raison pour laquelle le psaume 110, verset 4, en parlant de Jésus, dit « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Le silence de la Genèse quant à ce souverain prêtre, roi de Salem, est un indice sans conteste possible de l'éternité du Fils de Dieu. Donc Jésus, un souverain sacrificateur, à nul autre pareil, ce qui le distinguait majoritairement de tous les anciens de cette fonction au sein du peuple d'Israël, c'est qu'il était saint, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Voilà donc pour l'homme, un homme qui a exercé une fonction que l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Elle présente Jésus comme le souverain sacrificateur parfait, car il nous est dit qu'il n'a pas à offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, entrant dans le lieu très saint, offrait un sacrifice, un holocauste, pour son péché, comme pour le péché du peuple. Jésus a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Une entrée unique, définitive, pour le pardon non seulement des péchés commis depuis le début de la Genèse, mais de tous les péchés à venir. C'est extraordinaire. Il a offert son propre sang une fois pour toutes. Et si vous regardez la vie du Seigneur, vous verrez que c'est de manière délibérée, volontaire, libre qu'il s'est offert. Certes, si vous relisez l'épisode de Gethsémané, vous voyez que Jésus, en tant qu'homme, a été comme nous face à la mort. Il l'a crainte. Il a demandé que si cette coupe, si cette épreuve pouvait être éloignée de lui, que son Père la lui préserve. Mais ses dernières paroles, pour bien montrer sa volonté, sa détermination dans l'accomplissement de la mission que le Père lui avait donnée, a été résumée en ces mots. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Une mort où Jésus s'est offert librement. Lui, il a offert sa vie comme le prêtre offrait la victime. Enfin, Jésus, à la différence même des souverains sacrificateurs, des prêtres, des prophètes dans l'Ancienne Alliance, et nous l'avons vu au début du texte de 1 Pierre 2 que nous avons lu, est cette pierre vivante, celui par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, qui que nous soyons, pourvu que nous croyons en lui. Aucun titre ne peut définir à lui seul le mystère de Jésus-Christ, fils de Dieu, inséparable du Père, mais en même temps fils de l'homme, ressemblant à lui, en tant qu'homme, comme nous. Mais Jésus est à la fois le grand prêtre, le Messie roi, et aujourd'hui, pour chacun de nous, le médiateur de la nouvelle alliance, à laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons tous partie avec tout ce que cela implique pour nous. Et je vous invite dans un dernier point à voir ce à quoi nous sommes appelés en tant que sacrificateurs, rois et sacrificateurs. Le texte de l'épître de Pierre que nous avons lu parle de deux aspects du sacerdoce du croyant. Le premier rappelle que nous sommes privilégiés. Alors vous allez me dire, en quoi ce fait d'être privilégié est-il un aspect de notre ministère sacerdotal? Eh bien, parce que nous prenons part, par notre témoignage, par le témoignage de nos vies, à la fonction d'annonce de la parole, transmettre le message de la bonne nouvelle. Paul disait tout à l'heure que nous sommes ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est quelqu'un qui, dans un pays étranger, qui n'est pas le sien, rappelons-nous que nous sommes voyageurs ici-bas, sur cette terre, est chargé de représenter celui qui l'envoie, celui qui est au-dessus de lui. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, ici-bas. Du temps de Moïse jusqu'à la venue de Lévi, ce rôle a été assumé par les Lévites. Nous, nous avons été choisis par Dieu pour cela. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Choisis. Choisis parce que Dieu nous connaît. Choisis parce que Dieu veut se servir de nous. Et parce que depuis que Christ est mort et ressuscité, nous avons accès auprès de Dieu. Un grand privilège que d'avoir dès maintenant accès au trône de Dieu, sans passer par un prêtre terrestre, par un ministre terrestre de quelque culte que ce soit, notre intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, nous qui étions sans avenir, sans espérance dans ce monde, à cause de notre péché, qui étions voués à la perdition éternelle, Dieu nous a appelés à cette tâche de sacrificateur. Deuxième aspect du sacerdoce des croyants est que nous avons été choisis dans un but précis. Il nous est dit que nous devons offrir des sacrifices spirituels. Hébreux 13, 15, 16, et de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Offrir des sacrifices. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel et comment offrir de tels sacrifices à Dieu? Pour mieux comprendre ce que Paul veut dire, ce que Pierre veut dire, pardon, il faut se souvenir qu'offrir un sacrifice, c'est apporter devant Dieu quelque chose de précieux à ses yeux. Qu'avons-nous qui pourrait être précieux aux yeux de Dieu? Si vous regardez en vous-même, vous vous dites, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que Dieu peut considérer de précieux en moi. Ce que Dieu aime, ce qu'il attend de nous, c'est un esprit brisé, une vie de prière, la louange, l'offrande de nos vies. Lui apporter le sacrifice d'un esprit brisé, c'est abandonner notre fierté, notre arrogance, pour venir à lui humblement, comme des mendiants de l'esprit, ce qui est inclus dans les béatitudes. Prier, c'est une fonction importante. Si les prêtres, sacrificateurs l'exerçaient, nous devons nous aussi prier, parler à Dieu, mais aussi l'écouter. La prière, ce n'est pas un monologue de nous devant Dieu. La prière, c'est un dialogue. Dieu nous parle par sa parole, nous lui parlons, exprimant ce que nous comprenons de sa parole et attendant qu'il nous éclaire pour savoir comment la mettre en pratique, comment la vivre dans notre vie de tous les jours. Louer Dieu, c'est l'adorer. C'est-à-dire lui apporter notre reconnaissance, à lui, le Créateur des cieux et de la terre, à lui le grand Dieu, à celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui a fait de nous un peuple nouveau, qui nous a fait enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alors la louange des rachetés, elle présente plusieurs aspects. Je ne prétends pas les couvrir tous. La louange, elle doit être spirituelle, en rapport avec la nature même de Dieu, qui est esprit. La louange, si nous pouvons l'offrir à Dieu dans notre vie individuelle, chez nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, elle est aussi offerte, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de manière collective au sein de l'Église, la maison de Dieu. Et elle doit être, si nous apportons notre louange par Jésus-Christ, elle est agréable à Dieu, car c'est lui-même qui initie cette louange dans nos cœurs. Ce n'est pas notre propre cœur, ce n'est pas notre propre nature qui nous pousse à louer Dieu. Si nous n'avons pas été transformés à l'image de son Fils, nous ne sommes pas capables de louer le Créateur des cieux et de la terre. Alors vous allez me dire, quand puis-je adorer ? Comment puis-je adorer ? Oh, il n'y a pas de ligne de démarcation entre le temps pour adorer Dieu et le temps pour ne pas l'adorer. Notre vie, chaque instant de notre vie, doit être adoration. Rappelons-nous que aucun sacrifice n'est plus agréable à l'Éternel que des vies qui lui sont consacrées, des vies qui sont entièrement disponibles à son service, quelles que soient nos activités quotidiennes. Je vous relis ce texte extraordinaire, vous le connaissez tous, Romains 12, verset 1. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part notre culte ou notre service raisonnable. Si nous pouvons apporter chaque jour notre vie à Dieu, nous serons transformés par l'action de son Esprit en nous. Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons, avec l'aide de Dieu et par sa grâce, veiller à mener, comme Paul aux Corinthiens nous y engage, une vie qui lui soit agréable. Ou comme Pierre nous le dit encore au verset 5 de l'épître que nous avons lu, vivre une vie sainte, afin d'offrir vraiment à Dieu ce qu'il attend de nous. Que par nos comportements, nos paroles, nous puissions l'honorer, le servir, le sanctifier dans nos cœurs et annoncer tout autour de nous, à ceux qui nous entourent, les hauts faits de celui qui a fait de nous des sacrificateurs, des rois pour Dieu. Un privilège, une responsabilité. Offrir sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. J'aimerais pour terminer que nous lisions un texte bien connu pour ceux qui ont assisté il y a quelques mois maintenant à l'étude du livre de l'Apocalypse. C'est un texte extraordinaire. Au chapitre 1er, je lis à partir du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.